Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Blanc large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Claude Bechtold, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On parlait de la peur. Vous dites, moi j'avais peur, j'aimais la Suisse, la sécurité, les assurances. Mes copains, eux, ils savaient ce qu'ils faisaient. On peut dire qu'eux étaient un peu inconscients et puis que vous aviez un peu les pieds sur terre. C'était un milieu extrêmement dangereux, l'Afghanistan en 2002.
Alors, ça, c'est ce que je pensais, en fait. Et moi, je pensais qu'ils étaient fous, vraiment. Moi, je connaissais pas les journalistes et je connaissais pas les journalistes de terrain, les grands reporters. Donc, au début, j'ai vraiment pensé qu'ils étaient complètement cinglés. Mais avec le recul, je pense que c'est quand même eux qui avaient raison. D'abord, en fait, c'était pas si dangereux en 2002, l'Afghanistan, parce que l'Afghanistan, c'est déjà un pays qui respecte le voyageur. Depuis longtemps, c'est la tradition afghane. Donc, a priori, le voyageur, on le protège. Et l'autre chose, c'est que mes deux compars, Serge et Paolo, ils avaient vraiment cette idée de voyager dans une toute petite voiture et puis d'arriver et de frapper à la porte des gens, en fait.
Surtout pas se faire remarquer avec une escorte, avec...
Oui, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas en position de force. Ouais. Et donc, on arrive même en position de faiblesse. C'est-à-dire qu'on a eu sans arrêt des problèmes, on est tombé en panne, on était au mauvais moment, au mauvais endroit, bref, on n'avait pas prévu les choses. Et en fait, à chaque fois, il y avait des gens pour nous sortir de là, en fait. Je pense qu'on a tiré la compassion en voyageant comme ça. En plus, ils étaient habillés un peu n'importe comment. Serge et Paolo, ils n'étaient pas très chics, en fait. Et souvent, les gens avaient pitié de nous. Et l'autre chose, c'est que l'Afghanistan en 2002, c'est quand même un pays qui se réveille de 20 ans de cauchemar. Donc, ils ont eu 10 ans de guerre civile, de guerre contre les soviétiques, 5 ans de guerre civile entre chefs de guerre, et ensuite 5 ans d'autorité talibane implacable. Et donc, tout d'un coup, ce pays il se réveille et il a envie d'être photographié. Et moi, j'avais un appareil de photo. Mmh. Et donc, c'était assez extraordinaire comme premier contact. L'Afghanistan, moi, j'en avais toujours rêvé. C'est le pays où tous les voyageurs rêvent d'aller.
C'est la route de la soie.
C'est
les confins du voyage d'Alexandre le Grand aussi. Enfin, il y a tout un imaginaire.
Oui, et puis tout le monde y est allé, et tout le monde y est allé quand ça allait bien. Et tout d'un coup, on ne pouvait plus y aller à cause de la guerre. Et là, tout d'un coup, ce pays se réveillait et voulait nous parler, en fait. Mmh. Et voulait être photographié. Et du coup, c'était pour un jeune photographe comme moi, c'était extraordinaire. Parce que j'ai jamais volé de photos. Mais j'avais un petit appareil de photo, justement, qui attirait la sympathie. Parce qu'il était tellement petit que les gens pensaient que c'était un rasoir électrique. Et en fait, j'ai fait des milliers de clichés, en fait. Et j'ai essayé de capter ce moment magique où l'Afghanistan... c'était vraiment le réveil qui correspondait au printemps 2002. Et il y avait vraiment un éveil joyeux, en fait. Mmh. C'est un pays joyeux en 2002, l'Afghanistan.
On voit votre voyage, ses défis, ses craintes, ses enthousiasmes aussi. On va avoir un rendez-vous avec tel chef de guerre. Enfin, l'enthousiasme, pas tellement pour vous, hein, mais plutôt pour vos collègues journalistes. On voit un pays, en effet, qui s'ouvre, vous l'avez dit. Et puis, vous glissez là-dedans des moments d'histoire. Vous rappelez le 11 septembre et ce qui s'est passé après. Vous rappelez aussi, et ça, je pense que c'est intéressant à rappeler et à rappeler encore, que les femmes afghanes ont eu le droit de vote quelques décennies avant les femmes suisses.
Oui, c'est
l'ouverture d'un pays qui a été gâché par l'extérieur. Hein.
Ça a toujours été un pays pauvre, mais jusqu'à l'invasion soviétique, c'est un pays qui fonctionnait assez bien, c'est-à-dire qui était en paix. En tout cas pendant les 30 années qui ont précédé l'invasion soviétique. Et évidemment qu'on a ce présupposé que l'Afghanistan va mal et qu'il faut qu'on le sauve, mais pendant longtemps c'est les Suisses qui allaient se sauver en Afghanistan. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé en réalité, par hasard et par accident.
Et justement, cette notion-là, hein, c'est qu'on la retrouve très bien dans votre film. C'est éviter les clichés sur les pays dont on ne reçoit que des clichés. Hein. L'Afghanistan, on ne reçoit que les femmes voilées, les groupes de guerre, etc. Et puis on oublie qu'il y a une population normale, des gens souriants, des paysans, des gens accueillants, qui sont des gens, quoi, qui sont des humains.
Oui, et puis on oublie aussi que ces talibans ou alors ces fanatiques qui veulent mettre les femmes, qui refusent l'accès des écoles aux filles, c'est les gens qui étaient des héros pour nous quand ils se battaient contre les soviétiques. Parce qu'en réalité, souvenez-vous, les moudjahidines dans les années 80, c'était des héros. Et en réalité, c'était des gens qu'on payait pour se battre contre les soviétiques. Ils avaient une légitimité parce qu'ils défendaient leur pays contre une invasion étrangère. Mais c'était aussi des groupes très réactionnaires, en fait. C'est le début du réveil du djihadisme international et c'est surtout pas l'école pour les filles. Alors qu'en fait, dans les villes qui étaient tenues par les Russes, qui ont par ailleurs fait des choses abominables dans les campagnes pendant leur guerre atroce, en fait, à l'université de Kaboul, quand les Russes partent, il y a 40% de professeurs femmes. Ce qui n'est toujours pas le cas à l'université de Lausanne actuellement. Donc en fait, je rappelle juste qu'en fait, les fondamentalistes, quand ils se battent pour nous contre les Russes, c'est des gens super. Puis quand ils se battent contre nous, c'est des gens horribles.
Alors ça sort très bien hein, dans le film. C'est heureux d'ailleurs, parce qu'encore une fois, on a l'impression que tout est simple, hein, que les méchants sont là, les gentils là. Il y a aussi la notion, et là, c'est heureux parce qu'on vous sent critique dès l'instant où vous y êtes. Hein, on comprend que la Pax Americana, hein, les Ricains qui arrivent avec tous les autres, vous l'avez dit, mais en disant ça va être facile, on va renverser les talibans, on va mettre la démocratie, tout va bien se passer. Ça n'a pas marché en Irak, ça n'a évidemment pas marché en Afghanistan.
Oui, alors ça, c'est le travail de Serge et Paolo qui se rendent compte assez vite que ça fonctionne pas en fait. Il y a surtout la drogue qui reprend en fait, et le fait que le pays redevienne un narco-État. Alors qu'en fait, sous les talibans, ils avaient supprimé l'opium la dernière année taliban.
Ils avaient interdit la culture d'opium.
L'interdire, c'est une chose, mais ils avaient réussi à l'éradiquer. C'est-à-dire que la production était proche de zéro en 2001. Quand les Américains arrivent et quand l'Europe arrive, eh bien, en fait, au lieu de rester à zéro, cette production, elle remonte en flèche. Et quand on part en 2021, c'est la plus grosse production d'opium au monde. C'est le premier producteur au monde. Et ça explique un peu le désastre. C'est-à-dire que les chefs de guerre se sont enrichis, que le pays ne s'est pas unifié et que c'est devenu un narco-État.
Bon, vous retrouvez ce monde-là 20 ans après. Hein. Je me suis demandé, moi, pendant tout le film, pourquoi il a attendu 20 ans pour monter cette aventure.
Mais parce que moi d'abord je voulais pas du tout faire un film sur l'Afghanistan. Moi je filmais parce que avoir une caméra dans les mains ça me donnait une
légitimité.
Voilà, une légitimité, ouais. Exactement, voilà. Alors que avec mon petit appareil, j'avais rien du tout. Et par contre, moi c'était la photographie que je faisais. Donc moi je suis devenu photographe. Et puis l'autre chose, c'est que moi je savais pas comment digitaliser des cassettes vidéo à l'époque. C'était des cassettes vidéo. Je les ai données à un copain et il les a perdues. Enfin d'abord, il les a égarées, ensuite il les a perdues. Et plus le temps passait, plus c'est devenu une espèce de blague. On se disait, ouais, un jour on retrouvera ses cassettes, un jour je ferai mon grand film. À part qu'un jour, c'est arrivé en fait, il a retrouvé ses cassettes. Et à ce moment-là, évidemment, il n'était plus question de passer à côté. Il fallait que je m'y mette, ça a été dur et ça a pris plusieurs années. Mais Serge et Paolo m'ont dit, bah, maintenant mon gars, tu vas le faire ton film.
Quoi. Ouais. C'était des heures, des heures et des heures.
C'était pas énorme, c'est une quarantaine d'heures de bande. En fait, il y avait 40 heures sur l'Afghanistan, puis 40 heures sur l'Irak, parce qu'après l'Afghanistan, on est allé en Irak. Et au début, il était question de faire Kaboul-Bagdad, puis ensuite, on a divisé en deux, on a pris seulement l'Afghanistan, parce que c'était déjà très chargé pour un film.
Il y aura River Boom 2.
Mais il y aura peut-être une suite en Irak, en Irak, où c'était beaucoup plus gratiné. Alors là, c'était beaucoup plus dangereux, l'Irak, en réalité, pour d'autres raisons, mais voilà.
Bon, vous n'êtes pas resté dans ce monde-là, hein. Vous êtes après devenu éditeur, avec vos copains d'ailleurs, hein. Vous avez fondé devant cette rivière, il y a le pacte de River Boom, hein. C'est la rivière Boom qui est un moment du film que celles et ceux qui le veulent verront, mais vous avez fondé une maison d'édition, vous avez été dans cette aventure-là.
Oui, en fait, le grand changement de ce voyage pour nous, c'est que tout d'un coup, on a décidé qu'on ne se quitterait plus. Et c'est assez rare dans le monde du journalisme qu'il y ait des équipes comme ça qui se forment.
Comme souvent, vous auriez pu finir en vous détestant.
Oui. Mais l'avantage, c'est que pendant un mois et demi, on ne pouvait pas sortir de la voiture. Donc, on a pu se détester pendant une période. Mais après, comment dire, il a fallu mettre de l'eau dans son vin.
Et les c'est odeurs vrai que, se mélangent et on s'habitue.
Voilà, et on s'habitue aux sous-vêtements abominables de ses comparses. Mais oui, on ne s'est plus quitté, en fait. Et c'est vraiment un truc très particulier, en fait. Parce que les journalistes, souvent, surtout les photographes de guerre, sont des loups solitaires, en général. Bien sûr, ils se retrouvent le soir, mais en fait, ils voyagent seuls. Ou alors ils ont un journaliste, mais c'est pas des équipes qui durent très longtemps en fait. Et nous, pendant 20 ans, on a continué à travailler ensemble. Donc en fait, oui, c'est une aventure qui a duré 20 ans. En fait. Elle commence en Afghanistan et pendant 20 ans, on travaille ensemble, on fait des livres ensemble, on a une maison d'édition, on fait des séries d'articles pour le Matin Dimanche ou pour le ANZ Am Sonntag ou des journaux français. Enfin voilà, on a fait du journalisme et du photojournalisme et de l'édition pendant 20 ans.
Bon, j'en viens à quelque chose d'un peu plus intime pour vous par rapport à ce film. Hein. On connaît les romans d'apprentissage, c'est un film d'apprentissage, on le voit. Hein. Ce voyage a changé votre vie, il vous a permis d'apprivoiser certains de vos fantômes, de comprendre, de vous libérer de certains poids forts hein, qui consistent en deuil dans votre famille. C'est un moment exceptionnel de votre vie, c'est comme ça que vous le définissez ?
Oui, ben aussi parce que 20 ans.
C'est comme ça qu'on le sent dans le film, en tout cas.
Ben 20 ans plus tard, je comprends ce qui s'est passé, en fait. Ce voyage a changé ma vie, mais j'ai mis du temps à le digérer. Et le récit de voyage, c'est souvent ça, en fait. C'est rare de raconter un voyage immédiatement. Quand on rentre, on raconte des anecdotes, mais on n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé. Bouvier, pour écrire L'Usage du Monde, il met 10 ans. Il perd ses notes à BAM, et c'est un désastre. Bon, bref. Après, il s'enfonce, il va à Colombo, bref, il fait tout un voyage, et puis ensuite, il revient, puis il met 10 ans à le faire. D'ailleurs, son livre, il le sort à compte d'auteur. Personne n'en veut, c'est un ovni. Le récit de voyage s'intéresse personne. Et moi aussi, c'était compliqué de trouver le langage pour raconter cette histoire, parce que c'est à la fois très personnel, puis à la fois c'est géopolitique, puis à la fois c'est un pays dont on n'a pas le droit de dire autre chose que c'est horrible. Et donc, j'ai mis du temps à trouver la grammaire.
Bon, bah, ça donne une grammaire en tout cas drôle, émouvante parfois. Moi je conseille vraiment ce film à tout le monde. Il va être assez largement diffusé dans la région. Télé une fois, non ? Il passera à la télé ?
Il va passer à la télé parce qu'il était coproduit par la télévision suisse romande et puis il passera aussi à la télévision française.
Bon,
parce
ça, que, en tout cas, ça mérite d'être vu sur grand écran. Mais il y a le VIF, donc le festival de Vevey, ça sera le vendredi 25 octobre au Rex. Et puis après, avec Cinédoc, eh bien, B le 26 octobre. Oui. Vevey le 5 novembre, Martigny le 12 novembre, Montet le 14, Châteaudet le 17. Tout ça avec vous. Vous avez déjà vécu cette expérience, j'imagine, d'aller partager votre film avec le public.
Oui, il est sorti à Paris il y a un mois. Donc ça fait un mois que je fais les salles françaises et c'est assez extraordinaire. Ça, c'est la chance de la Suisse. On a notre
vous les voyez étonner les gens de voir l'Afghanistan comme ça. C'est-à-dire, parce que vraiment, ce qu'on en reçoit, c'est toujours terrifiant.
Oui, oui, les gens sont très étonnés et j'ai beaucoup d'Afghans dans la salle, enfin dans les salles qui viennent me voir et moi j'appréhendais beaucoup. On a fait aussi de l'international avec des festivals comme Istanbul, comme l'Argentine, voilà. Et en fait, ça marche à l'étranger en fait et en Turquie, à Istanbul, il y avait beaucoup d'Afghans dans la salle et ils ont beaucoup aimé le film en fait parce qu'eux aussi ils en ont marre qu'on dise que leur pays est horrible alors que l'Afghanistan, ça fait plusieurs milliers d'années que c'est un pays extraordinaire, donc il y a aussi autre chose à en dire que ça. Après, c'est important, je dis.
Nous, on était
trois mecs dans une bagnole
et
on voit quasiment pas de femmes. Ouais. Et au même moment, il y a plein de femmes journalistes qui font ce job en Afghanistan. Et ensuite, l'Afghanistan produit enfin des journalistes. Et il y a beaucoup de journalistes afghans pendant ces 20 ans de présence de l'ONU et des Américains qui se sont formés. Et ils ont commencé à raconter eux-mêmes leur histoire. Mais à l'époque, il n'y a pas de journalistes afghans, quasiment pas. Et nous, on est là, et puis on est trois mecs, et on débarque, en fait. Donc on fait ce qu'on peut. Voilà.
Bon, mais, parce que vous pouvez, c'est ce qu'on voit dans ce film. C'est la première fois que je vois un film comme ça, qui a été pris un peu, comme vous le disiez, un peu par prétexte, et puis qui devient une œuvre 20 ans après. Je trouvais ça assez admirable. Et il faut aller le voir. Merci beaucoup, Claude Bechtold.
Merci beaucoup.